Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comment elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota
EcoCross Dynamique LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 euros réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
h 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Je vous emmène à Laredo, au début de l'été 1496. Laredo, c'est tout à fait dans le nord du royaume de Castille, ça donne sur le golfe de Gascogne. Et en cette magnifique matinée d'été, une flotte d'une quinzaine de navires quitte le port. Ce port castillan, elle se dirige vers le nord, la flotte en question, elle est dirigée par l'amiral de Castille en personne, parce qu'évidemment, il s'agit d'un convoi très important. Dans le vaisseau principal se trouve une princesse, la fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, la princesse Jeanne. Elle est troisième dans l'ordre de succession. Il est peu probable qu'elle soit un jour l'héritière des très nombreux titres de ses deux parents, mais si elle quitte sa terre natale, c'est pour aller faire un très beau mariage, évidemment. Elle n'a jamais rencontré l'homme qui lui est promis. Comment voulez-vous qu'elle l'ait rencontré ? Lui se trouve aux Pays-Bas, et c'est là-bas que c'est vers les Pays-Bas que se dirige la flotte castillane. Le prétendant s'appelle Philippe de Habsbourg. Eh oui, il est le fils de Maximilien Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et ce qui l'attend, ce Philippe de Habsbourg, c'est un grand destin, la couronne élective du Saint-Empire, qui se transmet dans la famille déjà depuis quelques générations. C'est donc, par voie de conséquence, un grand destin qui attend également la princesse Jeanne. Alors, la navigation dure un mois, et puis ça y est, les deux jeunes promis se rencontrent aux Pays-Bas. Philippe et Jeanne se plaisent, c'est un véritable amour qui va naître entre eux, et l'année suivante, Jeanne va donner naissance à son premier enfant, et c'est une fille, Éléonore. Il y a deux événements importants qui vont se produire en l'espace de 6 mois. Jeanne, qui était troisième dans l'ordre de succession pour le trône de Castille et d'Aragon, se trouve d'un seul coup première parce que et sa grande sœur et son grand frère sont morts d'un seul coup. Et si Jeanne et son mari ont un fils, c'est donc sur lui que va reposer la succession des deux royaumes. En 1500, justement, le 24 février, Jeanne met au monde un fils. On est à Gand. Le fils va être baptisé Charles. Il deviendra donc Charles de Gand.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors assez vite, Jeanne, qui est, vous l'avez compris, héritière du royaume d'Aragon et de Castille, se soucie de la succession. Sa mère Isabelle la Catholique la presse de rentrer en Espagne, dans la péninsule ibérique, pour se préparer à cette succession. Et quelques mois plus tard, il se trouve qu'Isabelle décède. Et c'est ainsi que Jeanne et Philippe quittent les Pays-Bas et laissent leurs deux aînés, Éléonore et Charles, là-bas. En 1506, les deux époux s'installent durablement à Valladolid, tandis que Ferdinand d'Aragon, le père de Jeanne, est toujours lui roi d'Aragon. La même année, en septembre 1506, Philippe meurt. Il n'avait que 28 ans et sa femme Jeanne, qui était déjà assez faible et qui avait montré un certain nombre de signes d'instabilité, sa femme Jeanne va commencer à glisser de plus en plus dans ce qu'il faut bien appeler la folie. Alors le petit Charles de Gand, me direz-vous, il n'a que 6 ans lui. Il est proclamé duc de Bourgogne. En théorie, comment dire, potentiellement, il est roi de Castille. Seulement un enfant de 6 ans qui réside à Gand va avoir du mal à gouverner un tel royaume. Ferdinand d'Aragon décide de diriger lui-même la Castille et Maximilien, donc l'autre grand-père, va nommer sa fille Marguerite régente des Pays-Bas. Il s'agit d'attendre que Charles atteigne sa majorité. Alors, que sait-on de l'éducation de ce jeune Charles ? Juan Carlos d'Almico et Alexandra Danet écrivent dans leur biographie de Charles Quint. Charles était timide, introverti, peu expansif et son visage était assez inexpressif. Une malformation de la mâchoire l'obligeait à garder la bouche ouverte en permanence, ce qui lui donnait un air quelque peu simplet. Toutefois, son corps était assez bien proportionné malgré une stature moyenne. Préférant l'activité physique à la lecture, il voulait exceller dans l'art de la guerre et aspirait à marcher sur les traces de ses ancêtres. Avec ses compagnons, il apprit à monter à cheval, à rompre des lances, à se battre en duel, à l'épée et à chasser en forêt. De nombreux témoignages contemporains confirment sa dextérité en la matière dès son plus jeune âge. Charles faisait d'ailleurs l'admiration et la fierté de son grand-père paternel dans ce domaine. Et nos deux auteurs ajoutent qu'il est certain que les divertissements ne manquaient pas, en particulier la chasse, sport apprécié par de nombreux princes et rois de l'époque pour entraîner les hommes et les chevaux à la guerre. Charles savait que tout bon prince devait par ailleurs cultiver les lettres et connaître la Bible, source de modèles de vie et texte essentiel à la formation culturelle individuelle. Ces enseignements alimentaient les réflexions éthico-politiques et servaient de référence constante dans les décisions et l'interprétation des événements. Par ailleurs, Marguerite, la régente des Pays-Bas, souhaitant que son neveu connût tous les peuples qu'il serait amené à gouverner, le faisait toujours participer à ses voyages. Ça, cette itinérance va marquer non seulement l'enfance et la jeunesse, mais la vie entière de ce personnage qui sera toujours, toujours à cheval, toujours sur les routes. À la fin de l'année 1515, il a donc 15 ans, il va rencontrer un des plus grands esprits de son temps, c'est Érasme. Alors on demande au grand humaniste de rédiger un livre d'éducation pour le jeune Charles, ce qu'il va faire, et en juillet 1516, l'écrivain peut s'achenouiller devant le jeune Charles et lui tendre l'éducation du prince chrétien. Et en échange, il obtient la charge officielle de conseiller qui va lui donner une forte pension annuelle. En réalité, Érasme ne va pas rester dans la capitale, il fuira tout ça, il fuira la cour et les intrigues politiques. Mais dans ce livre qu'il a rédigé pour le jeune Charles, il lui conseille de créer sans cesse les conditions d'une paix chrétienne en Europe et de travailler de concert avec les autres grands monarques, avec François Ier, avec Henri VIII, avec Maximilien Ier. Alors disons-le, Charles préfère chasser que lire, on l'a dit. C'est pas un intellectuel, mais c'est un homme intelligent, que dis-je, très intelligent. Problème, plus les années passent et plus on se pose des questions, car le grand-père de Charles, Ferdinand d'Aragon, n'a pas l'intention de voir ce petit-fils Charles lui succéder sur les trônes de Castille, Aragon et Naples. Il lui préfère son petit frère, qui s'appelle aussi Ferdinand, qui a 3 ans de moins que lui, hein, qui est né, lui, en Castille, qui vit là-bas, dans la péninsule ibérique. Pour s'imposer maintenant, Charles va avoir beaucoup de travail. Une danse anonyme, catalane, interprétée par la Chapelle Royale de Catalogne, sous la direction de Jordi Savall.
Vous écoutez Radio Classique.
Ferdinand d'Aragon, c'est l'homme de la reconquête, c'est l'homme des grandes découvertes, hein, ce vieux roi, le veuf d'Isabelle la catholique. Ferdinand est devenu un vieux monsieur maintenant, et après le décès d'Isabelle, il s'est remarié avec Germaine de Foix. Son idée, c'était d'avoir un héritier mâle. Il ne veut pas que le jeune Charles et la branche qu'il représente hérite du trône de Castille, du trône d'Aragon, et puis avec tout ce qui va avec, hein, la Sicile, le Naples, le Roussillon, la Cerdagne, la Navarre. Ses médecins lui préconisent toutes sortes d'herbes pour essayer d'augmenter sa fertilité, pour qu'il puisse donner, enfin que sa jeune épouse puisse lui donner un fils. Mais en janvier 1516, il est au bord de la mort et sur son lit de mort, il est bien obligé de se résigner à reconnaître Charles comme son héritier. L'origine de sa maladie pourrait venir d'ailleurs des espèces d'herbes là qu'il ingurgitait. Il n'a que 48 ans à l'époque, Ferdinand d'Aragon, mais on dirait vraiment un vieillard. Il a l'intention d'éviter la guerre civile et il va désigner cette branche de Habsbourg comme héritier légitime de l'ensemble de ses titres. Autant dire que c'est Charles qui va hériter de tout ça. Et le 13 mars 1516, l'évêque de Bruxelles célèbre une cérémonie d'obsèques pour Ferdinand d'Aragon dans sa cathédrale. Alors, évidemment que le cercueil n'est pas dans les Pays-Bas, mais selon le rite, il faut quand même réaliser tout un cortège funèbre. On voit le jeune Charles vêtu de noir, bien entendu. Le lendemain, 14 mars 1516, Charles est désigné dans tous les titres, attributs, etc. Il reçoit la plénitude des pouvoirs sur ces couronnes que ne voulait pas lui céder son grand-père. Et ce sont des cérémonies qui ne plaisent pas, évidemment, aux Aragonais et aux Castillans, qui ne plaisent pas aux différents Cortés. Tous ces gens-là voient d'un très mauvais œil que les couronnes passent entre les mains, sur la tête plutôt, de ce bourguignon. Les Castillans sont vraiment très remontés parce que la mère de Charles, donc Jeanne, n'est toujours pas décédée à l'époque. C'est vrai qu'elle est folle, je vous l'ai dit, elle est internée pour tous ces dérèglements mentaux. Mais selon eux, il n'est pas question de proclamer Charles roi de leur royaume. Dans l'histoire de l'Espagne, voici ce qu'écrit Philippe Nourry. Aux yeux d'une majorité d'Espagnols, surtout les Castillans dont le trône n'était pas vraiment vacant, c'était un véritable coup d'État, humiliant, inutilement provocateur. Le sort de leur pays s'était décidé hors de chez eux. Ils s'en souviendront bientôt. Le premier soin des chefs de la révolte qui se prépare sera d'aller rendre hommage à la reine légitime de Castille, toujours enfermée à Tordesillas, dans l'espoir de lui voir prendre contre son fils la tête de leur mouvement. En plus, ce serait tellement facile d'avoir une femme qui n'a plus toute sa tête au sommet de la Castille, n'est-ce pas ? On pourrait faire ce qu'on veut. Le 8 septembre 1517, 40 navires, puissants navires, vont s'éloigner des côtes des Pays-Bas et dans le plus imposant, qui ressemble à un château de mer, c'est un des témoins de l'époque qui nous dit ça, le roi Charles, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, il est là sur le pont qui observe son armada descendant vers l'Espagne. À ses côtés, Guillaume de Crouy, qui a été l'un de ses principaux précepteurs et qui est son plus proche conseiller. Après cette traversée, qui d'ailleurs va être très difficile, parce que la plupart des hommes qui sont à bord n'avaient jamais fait de traversée sur des navires, on arrive donc en vue des côtes de Castille. Il y a là une tempête terrible qui pousse les navires beaucoup trop à l'ouest, vers les Asturies, près de Villa Viciosa. Et finalement, Charles va débarquer là-bas, avec tous les seigneurs qui sont flamands, vous avez bien compris. La plupart parlent le français, essentiellement. Quasiment aucun ne parle le castillan, et Charles non plus d'ailleurs. Il n'y a personne à l'arrivée pour les accueillir, ils ne sont pas bien vus du tout. Les habitants des Asturies ont d'ailleurs cru dans un premier temps à une attaque de pirates. Il faut dire que cette énorme armada n'était pas attendue du tout à ce point à l'ouest. Lorsque Charles arrive à Valladolid, l'accueil n'en est pas moins froid. Je cite de nouveau d'Amico et d'Anet. Ce prince étranger, qui arrivait en Espagne accompagné d'une cour elle-même essentiellement composée d'étrangers, dirigée par le français Guillaume de Crouy, ne manqua pas de révolter les Castillans, exaspérés par l'arrogance de ceux qui se comportaient en véritables occupants. Selon le témoignage de Pierre Martyr d'Anguiera, Crouy dilapidait les richesses du roi, mettant en danger son honneur et sa réputation. Les étrangers, nouveaux gouvernants de la Castille, étaient détestés de toute la population en raison de leur avidité. Très vite, le comportement des Flamands devint insupportable aux yeux de la population, entraînant de nombreux affrontements et faisant plusieurs victimes. Des pasquinades dénonçaient sur les portes des églises l'impunité des violences faites aux Castillans, mais les prêtres refusaient de dire la messe en leur présence. La population, exténuée, désemparée, soulageait sa colère en déversant urine, excréments ou tout type de déchets sur la tête des passants flamands. C'est vraiment un accueil atroce pour Charles, qui va rendre visite à sa mère. Il ne l'avait pas vue depuis 13 ans, il n'a que 17 ans lui-même. Il a des souvenirs un peu flous de cette mère enfermée donc à Tordesillas depuis maintenant 11 ans. Charles a besoin qu'elle le reconnaisse, qu'elle le renforce dans sa légitimité. Et dans un premier temps, elle n'arrive même pas à reconnaître son fils. Elle lui dit « Mais tu es mon enfant ?» Elle ne reconnaît pas ce fils et la seule chose qu'elle lui demande, c'est l'autorisation de sortir de ce qu'elle considère comme une prison. Le vieux Guillaume de Cruy, donc le conseiller de Charles, entre à son tour dans la chambre. Il se souvient d'avoir rencontré cette princesse et elle l'a vue à l'époque à la cour des Pays-Bas dans une période qui était la période heureuse de sa vie et Cruy va la convaincre de reconnaître son fils pour le bien de la Castille, pour éviter la guerre civile, et tout est arrangé. Charles va pouvoir se rendre à Valladolid et, le lendemain, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, les Cortés, à leur tour, vont le reconnaître comme roi. Jordi Savall de nouveau, cette fois à la tête d'un certain nombre d'instrumentistes de l'ensemble Hesperion 21 qui interprétait cet air anonyme intitulé Propinande Melior.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Charles s'est fait maintenant à l'Espagne, il connaît un peu les mœurs, la cuisine, il apprend la langue. Ça fait 14 mois qu'il est là et peu à peu, il se fait accepter, disons les choses. Mais voilà qu'une nouvelle incroyable pourrait tout changer. Le 12 janvier 1519, en Autriche, au château de Vels, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est donc le grand-père paternel de Charles, hein, Maximilien, meurt. Et, alors, c'est vrai que sa mort n'est pas une surprise, on l'attendait, c'était sa troisième attaque d'apoplexie en 4 ans. Hein. Il se déplaçait toujours en litière, mais vous imaginez l'importance politique d'une telle nouvelle à l'échelle de l'Europe entière, d'ailleurs. Je cite une dernière fois Juan Carlos D'Amico et Alexandra Danet. Comme ses prédécesseurs, Maximilien voulait résoudre le problème de sa succession au Saint-Empire en facilitant le chemin à un membre de sa famille. Dans un premier temps, il avait pensé à Ferdinand, le frère cadet de Charles, estimant que partager les couronnes entre les deux frères était peut-être plus judicieux que pour le futur des Habsbourg. Charles devait déjà s'occuper de l'administration de nombreux états et territoires. Y ajouter le Saint-Empire allait lui rendre la tâche très difficile, mais c'était compté sans la détermination et l'orgueil de Charles, pour qui la grandeur des Habsbourg était fondée sur le respect d'une règle, le fils aîné devait être le chef de famille et le véritable organisateur de la politique familiale. De plus, un partage des territoires entre les deux frères pourrait affaiblir, diviser la maison habsbourgeoise et favoriser le roi de France. Donc, Charles, qui a 18 ans, va se présenter devant les grands électeurs. Évidemment, il y a d'autres candidats. On parle du roi d'Angleterre, mais surtout, il y a un grand rival dans cette élection majeure de 1519. C'est le roi de France, bien sûr. C'est François Ier.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et pendant toute cette année 19, les grands électeurs vont recevoir énormément d'argent de la part de tous les camps. C'était très pratique d'être électeur du Saint-Empire romain germanique, parce qu'au moment des élections, évidemment, vous étiez courtisé, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Charles a une intelligence particulière, en tout cas ses conseillers peut-être, c'est qu'au lieu de donner des espèces sonnantes et trébuchantes, comme le fait le roi de France par exemple, lui donne des lettres de change à tirer après l'élection, c'est-à-dire que s'il est élu, eh bien, les électeurs pourront empocher l'argent. Sinon, tant pis pour eux. Bah, c'est ce que vont faire les électeurs. Hein. Ils commencent par empocher tout l'or de François Ier, et puis ensuite, eh bien, ils vont élire Charles et envoyer leur lettre de créance à la banque Fugger pour toucher leur rétribution. C'est parfait, ça, ce qui veut dire que Charles est élu. Et que François Ier a perdu, ça va être le début de cette rivalité extraordinaire entre les deux souverains, vous savez bien. Le 20 mai 1520, Charles demande à son ancien précepteur, Adrien d'Utrecht, d'assurer la régence le temps d'aller à son couronnement à Aix-la-Chapelle. Charles n'est pas encore arrivé dans la ville impériale que des révoltes commencent à éclater en terre espagnole, à Tolède, à Ségovie, à Salamanque, etc., à Avila. Il y a une junte même qui s'installe à la tête de ces villes, on commence à voir des pillages, et au même moment, Charles devient donc lui qui était Charles Ier hein, des Espagnes, il devient Charles V, empereur, donc on va l'appeler nous en France, Charles Quint. Il faudra un an de lutte armée pour mettre fin à toutes les échauffourées qui vont saluer son accession au trône du Saint-Empire. Et le 23 avril 1521, eh bien, son armée arrive à rétablir l'ordre dans la péninsule. Non sans mal d'ailleurs. Charles Quint ne rentrera lui-même en Espagne qu'en juillet 1522. C'est facile, hein, il a donc 22 ans. À l'époque, il est toujours célibataire. Il a conscience du travail énorme qui lui reste à faire pour apaiser le royaume. Ce dont, en revanche, il n'a sûrement pas conscience, c'est qu'il a toutes les qualités pour accomplir ce qui va être l'un des plus grands règnes de toute l'histoire. Oui, c'est un grand monarque qui va régner à la fois sur le Saint-Empire romain germanique et toutes ses dépendances, sur les couronnes de Castille et d'Aragon et toutes leurs dépendances européennes, mais aussi sur l'immense empire colonial que les navigateurs travaillant pour la couronne d'Espagne avaient réussi à conquérir. Le soleil ne se couchera plus sur l'empire de Charles Quint. Lui-même sera constamment sur la brèche pour essayer, dans la mesure du possible, d'accomplir ce que ses précepteurs avaient essayé de lui enseigner, c'est-à-dire la paix de la chrétienté.
Vous écoutez Radio Classique.
Et voici notre Christian Morin, qui lui aussi possède un empire radiophonique assez extraordinaire.
Un empire de papier, surtout, devant le micro.
Vous avez bien signé hier soir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et je retourne maintenant dans le Bordelais, samedi.
Pour une autre signature.
À Saint-Médard-en-Jalles, voilà.
Ah, bravo.
Au Centre Leclerc, ces endroits de culturels.
Mais oui.
Le lieu culturel du Centre Leclerc, je serai là-bas samedi. Alors, merci pour cette évocation de Charles Quint. On change de chiffres avec un numéro 2, mais ce sont les débuts de Philippe II.
Oui, alors, parce que je me suis dit que c'était amusant, après avoir parlé de la jeunesse du père, de parler de la vieillesse du fils. C'est ce voilà, que nous ferons.
Ainsi soit-il, en quelque sorte. Et le plaisir de vous retrouver, bien sûr, demain avec David Abiker, bien sûr, à 8h05 et à 9h, comme chaque jour, devant ce micro magnifique, qui vous va de mieux en mieux, d'ailleurs.
Vous voyez, autant.
Ah oui, autant, on emporte le vin, comme on dit dans le Médoc. Bonne journée. À boire avec modération, évidemment, il faut le dire à chaque fois. Bonne journée Franck, à demain.
Bonne journée.